convaincre de revenir, parce que c'était pas évident pour Yoel de venir comme ça tous les mois, c'était assez épuisant. Mais ceci dit, on a trouvé quand même un compromis. Yoel va essayer de venir tous les deux mois, au moins avant les fêtes.
ברשות מורבי, ברשותכם. Lorsqu'on regarde la réalité de notre vie d'une manière trop restreinte, trop ponctuelle et limitée dans les événements, on a un problème, c'est qu'on risque de perdre l'image globale. C'est toujours un problème dans la vie de savoir avoir une vision qui soit une vision globale, puis après rentrer dans les détails. Le problème dans notre vie, c'est qu'on rentre trop rapidement dans le détail des choses et on perd en fait l'image globale. Encore plus, on ne l'a jamais eu. On rentre tout de suite dans les détails. Malheureusement, c'est vrai aussi dans l'étude. Lorsqu'on rentre dans une soubria, on rentre tout de suite dans un sujet, on n'arrive même pas à avoir la conscience de ce qu'on est en train d'étudier d'une manière générale. Ce qui fait que les détails vont couvrir le tout. En hébreu, on dit « Merov etzim lo ro'im et hayav ». À force d'arbre, tu ne sais plus que tu es dans une forêt. C'est-à-dire que le détail, encore un arbre, encore un arbre, encore un arbre, et tu ne sais pas que ça s'appelle forêt. Tu ne vois pas l'ensemble, tu vois les détails. Nous avons l'habitude d'enseigner que la force générale, c'est comme l'âme de tous les détails qui vont en réalité sortir de ce général. C'est-à-dire que l'étude de la Torah doit toujours commencer par une vision globale des choses. Et une fois que la vision globale est plus ou moins vue, car on ne peut pas la comprendre, alors on peut plonger dans tous les détails. C'est-à-dire que les détails n'existent pas en fait. Ils ne sont que la mise en détail d'un tout. Autrement dit, il n'y a que le tout qui existe, et le détail est une coupure, une itpartout en hébreu, une mise en détail du tout. Un exemple, le soleil. Le soleil, lorsqu'il est mis en détail, ça devient des rayons de soleil. Mais vous êtes bien d'accord que les rayons du soleil n'existent pas. Ils ne sont que le soleil qui émane. Si j'enlève le soleil, le rayon n'est pas. Alors que si j'enlève le soleil continue d'être. Donc le soleil, c'est le tout, et il va rayonner par une multitude de rayons. Donc les rayons n'existent pas, ils ne sont que des bras de ce grand soleil. C'est exactement la même chose dans toute l'étude de notre vie. Je veux dire l'étude de la Torah. La Torah, c'est l'étude de la vie. Et donc, il faut tout le temps voir une image globale de tout ce qu'on fait. Et il y a une règle. Les sages nous donnent une règle pour l'étude. Et cette règle, elle doit traverser 3 degrés. Quand tu veux étudier quelque chose, tu dois étudier d'abord le tout. Ça s'appelle en hébreu le klal. Une fois que le tout est vu, tu dois rentrer dans les pratiques, dans le prat, dans le détail. Puis, une fois que tu as fini ce travail-là, il faut revenir à la fin au grand tout. En hébreu, ça se dit klal, ou prat, ou klal. On commence par le tout, on descend dans le détail et on remonte dans le tout. Quelque chose d'assez concret pour que vous compreniez de quoi je parle. Les deux parachotes de Torah qu'on vient de passer. Yitro et Mishpatim. Dans la paracha de Yitro, qu'est-ce qui se passe? C'est grandiose. C'est-à-dire, on voit le tout. Mais dans ce tout-là, on ne tient pas encore quelque chose véritablement dans la main. La paracha de Yitro est tellement grand, tellement céleste. C'est le mont Sinaï. C'est une vision, c'est des voix, c'est des bruits. C'est un événement exceptionnel. Il est tellement exceptionnel que quand on rentre après cet événement exceptionnel, on n'a pas quelque chose dans la poche. On rentre le soir dans la tente. Chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il y avait tellement de choses, mais est-ce que vous avez ramené quelque chose? Non, on a entendu, on a vu, mais on n'a rien encore. Alors que la paracha d'après, Mishpatim, dans la paracha de Mishpatim, tel que son nom l'indique, on a déjà une mise en détail de ce grand tout qui va commencer à être mis en détail. Et donc il va y avoir une multitude de mitzvot dans la paracha qu'on vient de passer. Mais à la fin de Mishpatim, de tous ces détails, il y a juste un extrait à la fin de la paracha où on voit que Moshe remonte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe vient du tout, il est descendu dans les détails, et à la fin de tous ces détails, il doit finir, clôturer, par une vision globale une fois de plus. Un artiste qui est en train de fabriquer, de façonner une œuvre, il doit avoir une vision globale de la mise dans l'espace de son œuvre. Une fois qu'il a une vision globale, il va rentrer dans les détails, dans la fabrication. Et une fois cette fabrication faite, il va falloir se reculer pour voir encore une fois le tout. Peut-être que les ensembles, tous les détails ne vivent pas ensemble comme il faut. Parce qu'un équilibre n'est pas respecté. Et donc il faut le klal, le prat et le klal. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un ordre très important. Alors, on va essayer de faire un petit peu ce jeu dans l'année. On ne va pas tout prendre parce que nous sommes dans la fête de Pourri, mais on va essayer un tout petit peu de concentrer notre étude sur quelques mois qui sont autour de Pourri. On va commencer par exemple par Tou Bishvat. Tou Bishvat, ça ne fait pas très longtemps. À Tou Bishvat, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé des fruits. On a pris conscience de notre force de lien avec la terre. C'est une fête que les kabbalistes ont remis à jour, une fête qui n'est marquée nulle part. Et on a commencé à prier et à faire des bénédictions sur les fruits. Très intéressant. C'est-à-dire qu'on a trouvé le divin qu'il y a dans les fruits de la terre. Un thème très important pour le Rav Kook. En hébreu, Hakdusha Shebateva, la sainteté qui se trouve dans la nature. Est-ce que j'arrive à trouver le divin dans la matière, dans un fruit? Et là, il y a toute une éducation que je ne vais pas répéter, mais juste un petit détail, savoir tout le temps d'où je viens, de qui je reçois ma force. Et c'est pour ça que lorsque je prends une pomme pour faire une bénédiction, je n'oublie pas que la pomme vient d'un arbre. Apparemment, c'est tout bête, mais pas du tout. Il y a des gens qui mangent des pommes et qui ne savent pas que cette pomme a un passé, a un père, a une mère. Et donc, quand je prends la pomme, l'éducation de base me dit, Boré Peri, Aetz, rattache toujours la pomme à sa source. C'est une éducation de vie pour savoir d'où tu viens et qu'est-ce que tu es en train d'intégrer. Alors effectivement, on a mangé à Tou Bishvat des fruits. Un mois plus tard, exactement, jour pour jour. Donc, Tou Bishvat, Tou Be'adar, Tet Vav Adar, le 15 Adar, Pourri. Qu'est-ce qu'on fait à Pourri? La même chose, on se retrouve encore une fois à table. Autour d'une table, cette fois-ci, on va un tout petit peu creuser. C'était Kita Aleph, Tou Bishvat, c'était Ulpan Aleph. On a pris des fruits et on a béni le lien, on a trouvé le divin qui se trouve dans le fruit. Maintenant, on va augmenter la difficulté. On va essayer de trouver le jus du fruit et trouver le divin dans le jus du fruit. C'est-à-dire que le fruit va devenir vin. Et à Pourri, on va être à table et le grand zoom va être mis sur le vin maintenant. C'est-à-dire qu'on va trouver le divin, on va dévoiler le divin qui se cache à l'intérieur du vin. Un mois plus tard, exactement, Tou Nissan, le soir de Pessah. La même chose. Cette fois-ci, on se retrouve tous à table encore une fois. Jour pour jour, un mois plus tard. Et cette fois-ci, c'est la grande difficulté. On va essayer de découvrir le divin qui se trouve dans la matière la plus grossière, la plus matérielle, la viande. Le bassar, du temps du Beth Amikdash, Korban Pessah. Et là, celui qui trouve le divin qui se trouve dans la matière, dans la chair, alors là, c'est le top niveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande difficulté à manger de la viande, et à découvrir le divin qui se trouve à l'intérieur. À tel point que la Gemara nous dit Am aretz asur lo echol basar. Un ignorant n'a pas le droit de manger de viande parce qu'il ne sait pas découvrir le divin qui se trouve et il risque, après son repas de viande, de devenir un tout petit peu plus viande que 5 minutes avant. Moralité, nous avons 3, 15. Tout. Tout Bishvat. Tout Adar, tout Nissan. Et ces trois tout, Tetva, 15, on est en train d'augmenter dans la recherche. Celui qui ne voit pas, il va prendre l'histoire, le calendrier, il va se dire, tiens, tout Bishvat, c'est marqué dans le calendrier. Un mois plus tard, lui, il ne fait pas le lien, il n'a pas l'ensemble, il voit des détails. Quand est-ce que c'est pourri? Ah, Bezrat Hashem, j'ai vu dans le calendrier, dimanche. Dimanche prochain, c'est pourri, mais ouais, dimanche, ça tombe dimanche. Il y a un rapport avec tout Bishvat, je ne sais plus. C'est fini, tout Bishvat est terminé. Pas du tout. Celui qui arrive à s'éloigner un petit peu voit une image globale. Il voit 3 mois devant lui, parce qu'il a pris quand même du recul, et il voit ici une évolution. Il y a quelque chose de plus intéressant qui est en train de se dessiner sous ses yeux. Ça, c'est ce qui est intéressant dans le judaïsme, c'est de savoir prendre du recul. Et c'est pour ça qu'à Purim, un des 3 degrés, lorsque le vin rentre, on va découvrir le secret du vin. Nichnas yain yatsa sod. Lorsque le vin rentre, le secret va être décodé en fait. On va décoder du secret. Comment se passent les fêtes? Vous voyez, on n'a pas encore parlé véritablement de Purim, mais je préfère appliquer ce que je viens de dire, voir une image globale et tout doucement approcher à Purim. Les Chachamim nous expliquent à quoi servent les fêtes. Pourquoi il y a des fêtes? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pendant toute l'année, nous a placé des points de lumière? Les Kabbalistes nous expliquent qu'à chaque fête, il y a un combat différent. Un combat contre quoi? Eh bien, il y a une force différente qui apparaît dans le monde pour essayer de nous faire travailler. Les forces négatives, ce ne sont pas des créatures à part entière qui n'ont aucun rapport avec le divin. Pas du tout. Il y a un seul patron. Akadosh Baruch Hu, En Od Milevado. Et il nous place devant des difficultés pour qu'on essaie d'augmenter, de grandir en fait. La difficulté va nous hisser plus haut. En hébreu, ça s'appelle Nisayon, qui se traduit par épreuve. Mais en réalité, Nisayon en hébreu veut dire drapeau. Nes. Qui veut dire aussi miracle. Qu'est-ce que c'est un miracle? Qu'est-ce que c'est un drapeau? C'est une situation, lorsque tu tiens le coup dans cette situation, tu vas devenir beaucoup plus grand après. Et les grandes choses dans ce monde, elles passent toujours par un nissayot, par une épreuve, parce qu'on va grandir après. Chaque mois, il y a une lumière différente. Chaque fête, il y a une lumière divine qui doit apparaître, et donc Akadosh Baruch Hu va envoyer une force qui va cacher, qui va faire le contre, qui va cacher cette lumière, et à moi, de quoi faire, de décoder, de travailler pour découvrir la lumière qui se cache. Si je n'avais pas d'écran, alors cette lumière serait évidente, et l'homme n'a pas de travail, n'a pas de place dans tout ce processus. Akadosh Baruch Hu veut nous donner une importance. Et donc, il nous donne une difficulté. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes une difficulté pour qu'il dépasse cette difficulté et qu'il ressente du plaisir à avoir combattu quelque chose et à avoir réussi. Et selon la force qu'Akadosh Baruch Hu envoie pour cacher, pour camoufler, moi, je dois apprendre que c'est exactement ce que je dois faire. Autrement dit, je vais vous donner un exemple. À Pessah, Il y a une écorce, une force qui vient cacher. Akadosh Baruch Hu va nous donner une force qui vient nous étouffer de quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette écorce? Comment elle s'appelle? Mitzrayim, l'Égypte. Donc il va falloir que je découvre l'entité qui s'appelle Mitzrayim, l'Égypte. Et lorsque je comprends ce que veut dire Mitzrayim, ça sera pour le prochain cours, Ezrat Hashem, avant Pessah, le blocage de l'inconscient, le blocage de l'être, le véritable être qui est en nous, lorsqu'il est caché, lorsqu'il est bouché, lorsqu'il est étouffé, ça s'appelle en hébreu Mitzrayim. C'est un jeu de mots en hébreu. Mitzrayim, c'est la prison, Metzah, de l'identité, Mi. Mitzrayim, c'est l'identité qui est en prison. Lorsque l'identité est en prison, je sais exactement ce que je dois faire. Pourquoi on met, entre guillemets, entre parenthèses, mon identité en prison? Pour que je libère mon identité. Donc selon l'écorce, selon le travail contre qui vient, moi je découvre mon travail. Et si j'arrive à combattre, à dépasser, alors je fais partie de ceux qui sortent d'Égypte. Ça ne devient pas une histoire que j'ai lue dans la Haggadah. Ça devient du vécu. C'est moi qui sors maintenant. Hanouka, on l'a dépassé, c'est la même chose. Il y a une écorce différente qui arrive dans le monde. On l'appelle Yavan, la Grèce. Alors, dans le sens le plus simple, vous avez l'impression que les pauvres, les juifs, ils étaient toujours un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et toujours il y avait des petits exils, à droite, à gauche, chaque fois on venait nous étouffer. Bechol dor vador, kamim alenu lechalotenu. Chaque génération, il y a quelqu'un d'autre qui vient nous étouffer, et Akadosh Baruch Hu nous sauve. C'est gentil, c'est vrai, mais c'est pour les enfants. Il faut grandir un petit peu. Pourquoi à chaque fois ça vient avec d'autres personnages, d'autres déguisements? Ça veut dire que je dois découvrir une autre partie de moi, une autre parcelle de moi qui jusqu'à maintenant n'était pas encore découverte. Et Akadosh Baruch Hu va me pointer du doigt là où il y a une difficulté, là où je dois faire le nouveau travail. Alors à Hanouka, la même chose. On ne va pas rentrer dans le détail. Il y a une écorce qui va venir étouffer la personne et la personne qui va combattre va être libérée et va découvrir la lumière. La même chose, la lumière de Hanouka cette fois-ci. On arrive à Pourim. Qu'est-ce qui se passe à Pourim? Quelle est l'écorce de Pourim? Quel est le mal? Quelle est la couverture qui vient effacer, qui vient étouffer et que je dois combattre, que je dois enlever pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur? Comment s'appelle cette écorce? Les sages nous disent Amalek. L'écorce de Pourim a un nom. Elle s'appelle la Klipa, l'écorce de Amalek. Alors qu'est-ce que c'est que cette Klipa de Amalek? La Klipa de Amalek, c'est d'abord une direction de pensée. Amalek nous indique, en hébreu, il y a, quand vous étudiez à l'Ulpan, il faut tout le temps chercher la racine des choses. Les Chachamim nous disent que dans le mot Amalek, il y a d'abord le mot Am, notion de peuple. Et il reste deux lettres, Lak. Lak, en hébreu, ça veut dire venir lécher, venir avaler, comme un chien, nous disent les Chachamim, qui vient manger, qui vient avaler la notion de peuple. Ça veut dire que la Klipa de Amalek, cette écorce, contre laquelle on doit sortir pendant le mois de Hadar, c'est une écorce qui va nous faire perdre la conscience de faire partie d'un peuple. Comment on fait conscience, on fait prendre conscience à la personne en la perturbant qu'elle ne fait pas partie d'un peuple, en mettant en exergue son individualité. Ça veut dire que l'égoïsme va devenir très important. Donc Amalek va donner une force pour renforcer l'égoïsme chez l'homme, et l'homme va donc perdre sa notion de peuple. Si tu as quitté cette notion de peuple, tu es déjà dans un problème. Comment la Torah, comment les sages nous définissent, par exemple, le rachat, le mécréant? Comment on le définit dans la Torah? Les sages définissent le rachat par une seule chose, dans la Haggadah de Pessah. Rachat, Mahou Omer. Qu'est-ce que dit le Racha? Ma ha'avoda hazot lachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et les sages nous disent, le fi shehotzi et atzmo minaklal, comme il s'est exclu du tout, kafar ba'ikar, il a renié l'essentiel. Et donc il s'appelle Racha. Qu'est-ce que c'est le mécréant? n'est pas celui qui fait quelque chose contre. C'est tout simplement d'abord celui qui s'est retiré du tout. Si on revient à ce qu'on a dit au début du cours, c'est celui qui n'a jamais une image globale de ce qui se fait. Il est tout le temps dans le détail uniquement. Il se perd dans les détails. Vous savez ce que ça veut dire, se perdre dans les détails? C'est se perdre dans le moment, dans l'instant présent. Et ne pas connecter cet instant présent avec quelque chose du passé et avec quelque chose du futur. Ça veut dire que s'il y a chas v'shalom, une mauvaise nouvelle, alors cette personne est morte. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a avant, elle ne sait pas ce qu'il y a après. Elle ne voit pas une construction de chaque chose. Elle voit le dégât au moment où il est, et c'est tout. Ça, c'est un danger. Amalek, c'est exactement ce qu'il est en train d'émettre comme émission. Ça, c'est son émission. Et il y a marqué dans la Mishnah de Ta'anit, lorsque le mois de Hadar arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la Simcha. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'on vous a déjà dit d'augmenter la Simcha un autre mois d'année? Non. Alors, la plupart des gens se disent, dès que le mois de Hadar arrive, en fait, la Simcha arrive en même temps. C'est faux. C'est faux. Au contraire, les sages te disent qu'il faut faire un acte de quoi? D'agrandir, d'augmenter la Simcha. Autrement dit, je vais vous traduire maintenant autrement. Si tu n'augmentes pas la Simcha dès que Hadar rentre, tu risques la dépression. Tu sais pourquoi? Parce que la Simcha qui te suffit pour toute l'année ne suffit pas pour Hadar. Hadar, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui apparaît dans le monde. Et si tu restes avec le même niveau que Simcha que tu as d'habitude, tu risques de tomber très haut, de très haut. Moralité, pour rester au moins dans l'équilibre, il faut que tu augmentes le volume de ta Simcha. Très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de Hadar est un mois a priori difficile au départ. Et on voit le début de la Megillah. Nous, on ne comprend rien à la Megillah Esther. On arrive à Pourim à la synagogue, on est déjà déguisé, on est déjà content, et on commence la Megillah, qui jusqu'à la moitié parle d'un pogrom, et on est en train de rigoler. On ne comprend même pas ce qui se passe là-dedans. Vayibi me achashverosh, ou achashverosh, amolech, mehodu ba'atku, sheva ve'esrim, ou mea medina, et les pétards, et tous les gosses, et les machins. Mais est-ce que tu as conscience de ce que tu es en train de lire? Il y a un pogrom, il y a des tracts qui sont déjà distribués dans toutes les 127 provinces pour exterminer le peuple juif en un jour. Ça te fait rire? Alors on lit. On ne comprend pas. En réalité, on comprend. Pourquoi? Parce que comme il y a une mitzvah d'ouvrir la Megillah tout entière avant de la lire, alors on sait déjà ce qu'il y aura à la fin. Alors on est déjà content d'avance. Parce qu'à la fin, ils vont être pendus, tous ceux qui voulaient le mal. Moralité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On triche. On est en train de voir une vision globale. On s'est retiré, on s'est éloigné, et on a toute la Megillah devant nos yeux. On a le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire, on s'est mis entre guillemets à la place de Dieu. On est au-dessus du temps. On domine le passé, le présent et le futur. Celui qui arrive à faire ça, en réalité, il est automatiquement dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il voit toujours, même les événements qui commencent négativement dans ce monde, même les événements difficiles dans notre vie, même l'évolution difficile, à la fin, on va toujours vers une lumière. Et donc on se place d'une manière beaucoup plus élevée, très élevée à Pourri. On a une domination sur le temps. On joue un petit peu à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de découvrir la Megillah tout entière avant de la lire. Mais je reviens à notre inyan. Amalek va essayer exactement de casser, de briser cette force. C'est-à-dire, il va te dire, non, l'instant est difficile, maintenant tu dois te mettre en dépression. Aujourd'hui, ça ne va pas. Arrête de me parler de demain, arrête de me parler d'hier, aujourd'hui, ça ne va pas. Sois réaliste. Donc tu dois être déprimé. Ça, c'est Amalek. D'ailleurs, le verset est clair. Qui c'est Amalek? Entre parenthèses, pas ce Shabbat, mais le Shabbat d'après, Tetzaveh. c'est une mitzvah, midoraita, une mitzvah de la Torah, d'aller écouter ce petit passage qu'on va lire. On va sortir un deuxième Sefer Torah dans lequel on va lire ce petit passage de Amalek. C'est très important de l'écouter, c'est une mitzvah une fois par an. Donc les hommes qui un petit peu se lèvent en retard le Shabbat, cette fois-ci, il ne faut pas rater. Et il y en a qui disent, il y a une marloket, que même les femmes sont obligées d'écouter ça. Ça veut dire que c'est un passage très important. Alors le passage dit, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi, attention, de ce que tu as fait à Amalek. Et où est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Baderech, Baderech. Où est-ce qu'attaque Amalek? Regardez, tout est écrit, il faut juste que je lise. Amalek attaque sur le chemin. Quel chemin? Betzetra Mimitsaim. Betzetra Mimitsaim, lorsque vous êtes sorti d'Égypte. C'est-à-dire, quand tu as fait un effort de sortir d'Égypte, quand tu as fait un effort de te libérer de quelque chose dans ta vie, il y a tout de suite Amalek qui va venir te perturber. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dès que tu veux faire un effort dans ta vie, il y a toujours Amalek qui est sur la route. Et qu'est-ce qu'il fait? Asher Karcha Baderech. Il va te refroidir sur la route. C'est-à-dire, il va refroidir ton chemin, il va te briser ton élan, ta simcha, ta joie, tout ce que tu avais prévu comme grande lumière, il est en train de te refroidir. C'est-à-dire, c'est une écorce, Amalek, qui est très compliquée. Elle nous fait oublier, en fait. Elle nous fait oublier des choses très importantes et essentielles. Elle nous fait oublier, par exemple, la joie, l'excitation avec laquelle j'étais la veille de mon alia, quand j'ai décidé de sortir d'Égypte. Et quelques temps sont passés ici. Et je suis encore sur la route. Et je suis beaucoup plus triste, beaucoup plus amer, beaucoup plus lourd, beaucoup plus fatigué, avec beaucoup moins de émouna, avec beaucoup moins de vivacité. Et je deviens un petit juif qui a fait son alia et... Amalek. Amalek. Il t'a refroidi en route. Si tu n'as pas la même excitation que le soir de ton alia, que le jour de ton alia, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. On a avalé, on a mangé quelque chose en toi. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour arriver à ce degré-là et à garder cette fraîcheur. Rabbi Nachman de Breslev nous souhaite à tous d'être deux choses à la fois. Zaken veyanik. Zaken veyanik, un vieillard. Dans la Torah, un vieillard, ça veut dire quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire. Veyanik, un tout petit bébé. Et là-bas, les sages se disent, mais comment on peut être un vieillard et un bébé? Tout simplement. Un vieillard par la connaissance et un bébé par l'excitation du moment nouveau qui arrive. Et il faut que tu sois à chaque instant un vieillard et un bébé tout frais qui s'émerveille de chaque chose. Si tu as perdu ça, Chas v'shalom, Amalek a eu raison de toi. Et Akadosh Baruch Hu, son nom, le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, qui est marqué partout, ce nom-là, Chas v'shalom, est découpé en deux. C'est ce que la Torah nous dit. Amalek arrive à découper le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est le nom de Dieu? Vous savez que Dieu a un nom. Il a plusieurs noms. C'est un agent secret. Il se déguise, de temps en temps, il change de nom. Vous connaissez des noms de Dieu? Il y a Yudke, Vavke, il y a Elohim, il y a Ekye, il y a Alef Hei, Vav Hei, il y a Shem Tsevaot, il y a Shaddai, il y a... Mais c'est quoi tous ces noms-là? Qu'est-ce que c'est que tous ces noms? En réalité, ce sont des manifestations différentes de la même lumière divine dans ce monde. Ce sont des vêtements. Le nom, c'est juste l'apparition. Alors, qu'est-ce que c'est le nom, le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke? Comment ça se traduit en hébreu? C'est un nom qui n'a pas de nom, hein? On ne peut pas le dire. En hébreu, on le dit Shem Havaya. Shem Havaya, traduction, le nom de l'existence. C'est tout. C'est le nom de l'existence. C'est-à-dire, tout ce qui existe, c'est ce nom-là, Yud, Ke, Vav, Ke. Si, lorsque Amalek apparaît, ce nom-là est découpé, qu'est-ce que ça veut dire? que l'existence de l'homme est découpée. Ça veut dire que tu n'arrives pas à voir un ensemble dans ta vie, tu ne vois qu'une somme de détails. Hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, si Dieu veut, je ne sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas d'entité. Tu es paumé dans les détails. Et donc cette clipa de Amalek va t'endormir. Elle va te plonger dans un grand sommeil. Et la Megillah commence comme ça. Lorsque Haman apparaît, il va s'exprimer, et de la manière dont il s'exprime lui, moi je dois comprendre quel est mon travail. Qu'est-ce qu'il dit Haman? Yeshno am echad mefuzar ou meforad. Il y a am. Écoutez bien. Il nous définit en tant que peuple. Ça commence bien. En plus, il dit Echad, uni, une unité. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Mefuzar ou Mefuzar ben Amim. Il est éparpillé, il est dispersé. Haman est en train de nous mettre le doigt sur la chose la plus délicate. C'est-à-dire que dans notre source, nous sommes un, et dans la réalité, on arrive à devenir des ensembles, des petits détails. Et donc Haman se réveille, il se dit c'est le moment de les avoir, c'est fini, ils sont foutus. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent Yeshno, en hébreu comment on dit il y a? Yesh. Pourquoi Yeshno? Alors la Gemara nous dit Yashen, Yashnu. C'est un peuple qui s'est endormi. Il s'est endormi dans les ruelles de Paris, de New York. On a l'impression qu'on a construit une petite vie tranquille, j'ai une petite communauté, j'ai un petit machin. Tu es en train de t'endormir, tu es déconnecté de ta nation Israël. En mangeant kasher. D'ailleurs, dans la Megillat Esther, on mange tous kasher. Ve'ashtiya kadat en ones. Ils ont tous un mashgiach kashrut sur la table. Et ils boivent du vin kasher, il n'y a pas de problème. Chez Achashverosh, on ne force personne à rien. Seulement, tu es en exil, Adoni, tu manges de la table de ce rachat. Achloum et Shulchano shel oto rachat. Alors que nous avons une table qui est Eretz Israël, she'ochlim mishulchano shel makom, où on mange de la table d'Akadosh Baruch. Différent complètement. Mais on s'endort. Yeshno. Ça veut dire que l'essentiel de notre problème à Pourim, c'est l'éparpillement. On a perdu notre identité. Donc Pourim doit normalement, si j'arrive à faire le travail nécessaire, me redonner mon identité. Je dois prendre conscience le jour de Pourim de mon identité. Mais il y a un paradoxe extraordinaire à Pourim. Je dois prendre conscience de mon identité en la perdant. Et je dois me saouler. Je me saoule tellement que j'ai l'impression de perdre mon identité. Alors je me pose la question, comment je retrouve mon identité? En me saoulant, en sortant de mon système normal. Vous savez comment ça s'appelle en psychanalyse? Un lâcher prise. Ça veut dire, détends-toi un petit peu mon fils, lâche-toi un petit peu, tu sais ce que tu as en toi? Apparemment on a oublié. On a oublié que le divin est en train de nous traverser à chaque instant. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire à Pourri? Bois du vin. Tu peux me faire confiance, ce qui va sortir de toi, ce n'est que du bon. Quand tu verras que le jus intérieur que tu as, même lorsque tu t'es saoulé, nichnas yain, lorsque le vin rentre, yatsa sod, c'est le secret qui va sortir. Quel est le secret d'Israël? Sa neshama, son divin. C'est ça qui sort à Pourim. Apparemment, Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Exactement le travail inverse. Il nous met tellement de gardiens pour ne pas qu'on fasse ce lâcher prise. Et en réalité, il étouffe notre identité de se dévoiler. Par un soi-disant contrôle de chaque instant. Et on ne fait confiance à rien. On ne sait pas qu'à l'intérieur de nous circule la notion qui s'appelle Am Israël, le peuple d'Israël. Et lorsque ce Amalek arrive à faire son travail, malheureusement, il y a un mélange de bien et de mal. C'est-à-dire, on ne sait plus où est le bien, où est le mal. C'est-à-dire, c'est une clipa, une écorce qui va mélanger toutes les notions. D'ailleurs, la Gemara pose la question, d'où vient Haman de la Torah? Est-ce qu'un jour, vous avez entendu dans la Torah, hein, dans la Torah écrite, Haman? Jamais on n'a entendu Haman. Eh bien, les sages trouvent un endroit. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de point. Donc, si dans un endroit, tu trouves les trois lettres, Hey, Mem, Nun, c'est Haman. Alors, il y a plusieurs endroits. D'abord, il y a l'Haman qui tombe, mais bien avant. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Akadosh Baruch Hu leur a donné une interdiction formelle de consommer d'un fruit. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est une étude à part entière. En tout cas, lorsqu'ils ont mangé de ce fruit, Akadosh Baruch Hu vient et pose la question. Hamin ha'etz asher tzivitiha lebilti achol mimeno achalta? Est-ce que tu aurais par hasard mangé du fruit que je t'ai interdit? Et là-bas, la question Hamin, comme il n'y a pas de point, ça se lit Haman. Celui qui ne sait pas lire, vous donnez un enfant à lire, il ne va pas lire Hamin Haetz, il va lire Haman Haetz. Haman est l'arbre. Ça va très bien. C'est là-bas où il finira. C'est exactement comme ça que ça commence. Ça veut dire que les sages sont partis trouver dans la Gemara, dans la Torah, exactement la source de ce Haman. Alors je vous pose la question, d'après ce que je viens de vous dire, je vous ai déjà dit 90% de la réponse. Qui est Haman? Le serpent. C'est lui qui a commencé à perturber l'humanité, qui pour l'instant c'est Adam et Ève. Le serpent, dans son premier déguisement, il s'est déguisé le premier pourri en serpent. Après il a enlevé sa peau de serpent, il s'est déguisé en Haman. Après il a enlevé son déguisement de Haman, il s'est déguisé en Hitler. Après, il a enlevé son déguisement de Hitler, il s'est déguisé en Saddam. Après, il a enlevé son déguisement de Saddam, il se déguise en Nasrallah. Et après, il enlève son déguisement de Nasrallah, il se déguise en ce que vous voulez. Chaque année, il a un autre déguisement. Mais c'est toujours le même. Qui est l'intérieur? Le serpent. Le Nahash. Très bizarre, dans le verset que je n'ai pas terminé tout à l'heure de la sortie d'Égypte. Zahor et Asher Asa Lecha Amalek, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Qui a été attaqué là-bas? Vayezanev becha et kol anecheshalim acharecha. Les sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire necheshalim? La racine au milieu du mot, c'est nachash, ceux qui ont été mordus par le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire être mordu par le serpent? Ça veut dire tomber dans le mélange du bien et du mal. Je vous rappelle que le premier homme était dans la vie, dans l'arbre de la vie. Et il a consommé de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire il est descendu de niveau. Là aussi, il y a une leçon. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance? C'est l'étude. J'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir. On tombe tous dans ce piège, malheureusement. Lorsqu'on commence à ouvrir des livres, on quitte la vie, l'arbre de la vie. Les gens qui étudient la Torah pensent que la Torah c'est quelque chose et la vie c'est autre chose. Ils ne comprennent pas que la Torah c'est la vie, que la vie c'est la Torah. Il y a d'ailleurs une fameuse Mishnah exceptionnelle qui dit « Celui qui est en train de lire sa Mishnah et qui arrête de lire la Mishnah parce qu'il vient de voir un bel arbre. » Et il se dit « Quelle merveille !» Mana et ilanze, combien est beau cet arbre. Arez Zemitrayet Benafcho, celui-là est en train de se condamner à mort. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il a arrêté son étude pour voir l'arbre. Et pourquoi il a arrêté son étude pour voir l'arbre? Parce que pour lui, l'étude, c'est l'étude, et la nature, c'est encore autre chose. Et les sages nous disent, pas du tout. S'il avait continué son étude en regardant l'arbre et en faisant comprendre que ça fait partie de son étude, cette beauté de l'arbre, il n'y a aucun problème. Seulement, il y a un mot qui était là-bas, il s'arrête, possède. Quand il s'est arrêté de son étude, alors il peut voir l'arbre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de perturbé dans ta vie. Tu n'as pas compris que la vie, c'est la Torah et qu'il y a un seul ensemble. Donc les gens qui perdent la vie pour descendre dans le degré du bien et du mal de la connaissance, ils ont un problème. Il faut remonter à la vie. Il faut regoûter à la vie. Je traduis avec des mots tout simples ce que je viens de dire. Le judaïsme, il n'y a pas plus naturel que ça. Toutes les mitzvot, il n'y a pas plus naturel que ça. Si vous avez l'impression que vous êtes forcé à faire des mitzvot, ça veut dire que votre judaïsme n'est pas naturel. Ça veut dire qu'il y a un Dieu braqueur qui vous force à faire des choses que vous n'avez pas envie, qui ne font pas partie de vous. Ça, c'est pas de chez nous, ça. C'est presque. C'est la chrétienté. Dieu est dehors. Et moi, je suis ici. Et ce Dieu qui est au-dessus de moi, il vient m'étouffer avec des lois. Et il m'étouffe, et il m'étouffe, et il m'écrase. Aucun rapport avec ma vie. La Torah, c'est exactement l'inverse. Dieu n'est pas en dehors, il est dedans. Et tout ce que je fais, c'est tout simplement lorsque je le laisse apparaître à travers mes gestes. Ça veut dire que c'est complètement naturel. Je ne suis pas en train de l'inventer, on le dit tous les matins. Vechayer olam. Nata betochenu. L'éternité est à l'intérieur de nous. Ça veut dire à chaque fois que je fais une mitzvah, tout simplement, j'exprime l'éternité que j'ai en moi. C'est tout. C'est complètement naturel. Seulement, comment on nous a forcé, comment on a eu 2000 ans d'exil et certains continuent parce qu'ils sont habitués à être malades. C'est sympa d'être dans un hôpital. On te sert à manger tous les jours. Les infirmières sont mignonnes. Tu ne fais plus rien, tu deviens un type qui est en train de vivoter, qui a oublié la vie. Il commence même à amener ses livres, ses bureaux. Il s'installe dans l'hôpital. Et le jour où on lui dit, il faut que tu sortes, il dit, oh non, non, je suis vachement bien moi ici. Pourquoi il y a quelque chose d'autre dehors? Et c'est exactement la même chose. Le temps est arrivé de rentrer à la maison et on s'est habitué à la maladie. C'est vrai que la sortie de l'hôpital, parfois, paraît beaucoup plus dure. Mais c'est là où la vie commence. Exactement comme le bébé qui sort du ventre de sa mère, c'est beaucoup plus difficile que dedans. Mais c'est là où tout commence. Avant, on ne lui compte même pas un jour de vie. Imaginez-vous ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'on est en train de vivre seulement lorsqu'on arrive ici. Ceux qui sont venus il y a 13 ans, ils sont tous juste bar mitzvah. Et ceux qui sont venus il y a 8 jours, on leur fait la brit mila. C'est là où ils ont commencé à vivre. L'enfant ne compte pas ses années ni ses jours à l'intérieur du ventre. En dehors de cette terre, on est à l'intérieur du ventre encore. On n'a pas même pas commencé à vivre. Si on comprend la clipa de Amalek, on commence à comprendre un tout petit peu comment sortir. Il y a une règle. Le Maharal de Prague nous donne cette règle. Il nous dit, pour comprendre quelque chose, il faut étudier son inverse. Lorsque vous prenez le livre Netzach Israël, un des livres clés du Maharal de Prague, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il nous dit exactement cette leçon-là. Si tu veux comprendre le jour, il faut étudier la nuit. Parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est le jour que si tu as vu la nuit. Si je te dis est-ce que tu as chaud, je suppose que tu connais le froid. Sinon tu n'as même pas de référence. Si tu veux savoir ce que c'est la délivrance d'Israël, Dieu te fait passer par un exil d'Israël. Et tu dois étudier l'exil pour comprendre la délivrance. C'est-à-dire par l'étude des inverses, je comprends les sujets. C'est le paradoxe du judaïsme. Vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Ce fut un soir, ce fut un matin, une journée. Une entité, c'est quoi? C'est nuit et jour. Donc il y a un temps pour l'exil. Mais il y a un temps aussi pour que l'exil se termine. Il y a un temps aussi où la Géoula commence. Et si je ne sais pas, je n'ai pas les yeux adéquats pour voir le passage, je peux rater beaucoup de choses. Il y a une petite prière qui se cache dans la Amida qui m'impressionne, qui me fait vachement peur. Vetechezena enenu beshufcha letzion berachamim. Qu'est-ce qu'on demande? À Kadosh Baruch Hu, Fais-nous voir, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, lorsque tu vas revenir à Tzion. Alors le Rav Kook s'est posé la question à Zatzal. Pourquoi on demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire voir ça quand il va revenir à Tzion? Nous dit le Rav Kook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir. Les choses vont se passer devant leurs yeux et ils vont se poser la question, c'est quand la Géoula? Ils ne comprennent pas que les choses sont en train de se façonner sous leurs yeux. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner ses yeux pour voir le processus qui est caché dans la nature. C'est vrai que le processus est caché dans la nature. Vous savez pourquoi il est caché dans la nature? Pourquoi les miracles d'aujourd'hui ne sont pas dévoilés? Parce que nous sommes grands. Parce que nous sommes capables. Parce que Dieu nous juge capables de voir les choses cachées. C'est beaucoup plus mature. Si on doit nous montrer des miracles dévoilés, ça veut dire qu'on a encore des enfants. Lorsque le miracle est caché dans la nature, ça montre que le peuple qui vit cette situation est beaucoup plus grand, beaucoup plus mûr. Et c'est comme ça que le Zohar dit « Let nehora el amigo hashucha » « Tu n'as pas de lumière, si ce n'est une lumière qui vient lorsque tu sais ce que c'est le noir. » Et c'est pour ça que toutes nos histoires commencent par la nuit. De la plus ancienne des histoires, l'Égypte, regardez, on est assis le soir de Pessah, pour commencer une belle soirée, et dès le début, on nous gâche la soirée. Ovdei avoda zara ayu avotenu, nos pères étaient des esclaves, avoda zara, ils faisaient de la avoda zara. Mais pourquoi tu me parles de ça? On est venu pour une soirée tranquille. Viens, on fait un petit truc, une fête tranquille. Je commence pourri, la joie. J'arrive à la synagogue, on me casse le moral. Vayehi, vayehi, dans la Torah, chaque fois qu'il y a marqué vayehi, c'est la tristesse. C'est vayehi, bimah, hachverosh. Vous savez pas, une prise de tête. Et la hachverosh, c'est une prise de tête. C'est marqué comme ça. Tout celui qui parlait de lui, il avait des maux de tête. Exactement, hachverosho. C'est pour ça qu'on l'appelle la hachverosh. Pourquoi? Et nous, on a appris à faire la même chose. On a Yom HaAtzmaout. Le soir d'avant, 5 minutes avant, il y a Yom HaZikaron. C'est-à-dire tu es dans l'angoisse, dans l'angoisse, dans l'angoisse. Et 5 minutes après, on te dit, ça y est, c'est 8 heures. On passe à Yom HaAtzmaout. Allez, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël vit dans un paradoxe continu, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce paradoxe, il est où? Il est dans la Megillat Esther. Venahafohu. Vous connaissez Venahafohu? C'est marqué dans la Megillah, à la fin. Asherish letu ayudim hema besonem. Venahafohu, Venahafohu. Vous connaissez la chanson? Qu'est-ce que ça veut dire Venahafohu? Ça veut dire qu'il y a une qualité de se retourner. Il y a une force qui nous permet tout le temps, comme dans un dessin animé, tu as beau tuer le personnage, il se reforme. Tu as beau le découper en morceaux, il se reforme. Combien de fois ils sont morts les personnages dans les dessins animés? Ils sont toujours là. Ça c'est Am Yisrael, ça rend fou tout le monde. T'as beau le découper en morceaux, il disparaît, tu le détends, il passe dans une photocopieuse et il se regonfle. Incroyable. Ça c'est l'éternité d'Israël. Pourquoi? Parce que nous avons été créés avec une qualité intérieure qui est une qualité divine. Pourquoi? On ne sait pas. En hébreu, on dit kara. D'ailleurs, il y a un... le Ashrei, vous connaissez? Ashrei Aham, chez Kachalo. On ne sait pas. Heureux le peuple qui est kara. La Kadosh Baruch Hu nous a choisi. Ki becha chashak Hashem Elohecha. Car Dieu a eu envie de toi. Écoutez bien ce qui a marqué dans les versets. Et les Chachamim nous disent l'envie, ça ne se mesure pas. On ne sait pas pourquoi on a envie de quelque chose. Dieu a envie d'Israël, c'est tout. Celui qui ne sort pas heureux en dansant après avoir compris ça, c'est qu'il est malade. C'est que Amalek a réussi à le refroidir. S'il ne comprend pas qu'il est rempli d'identité divine, d'infinité, d'infini, et qu'il ne danse pas toute la journée, il ne comprend pas. Ivdou et Hashem besimcha. Si je ne fais pas les mitzvot, si je ne sers pas Dieu avec cette simcha, alors je suis en train de passer à côté de la plaque. Je n'ai rien compris. Dieu ne veut pas compter des mitzvot que je suis en train de faire. Il n'est pas assis sur une chaise à compter des points. Il y a beaucoup plus d'importance à la qualité dans laquelle je suis pendant que je fais ce que je fais. Dans l'état d'esprit que je suis. Si je fais un Birkat Amazon en écoutant chaque mot et que je vibre et je suis content de cette belle terre à la Aretzatova, Asher Natan la, et pas juste des mots en regardant la télé ou en regardant autre chose. Birkat Amazon. Qu'à la fin tu finis, tu te demandes ce que j'ai fait Birkat. C'est pas ça. Si tu prends conscience de chaque instant de ce que tu fais, tu entends les mots que tu dis, tu dois jubiler, tu dois danser tout le temps. Alors l'essentiel de Pourim c'est quoi? Mechiat Amalek. C'est ça l'essentiel de Pourim. C'est d'effacer Amalek. Alors si c'était dans l'histoire, d'accord, j'ai compris. Non, c'est dans l'actualité. Et pour que tu comprennes un petit peu plus, le Ben Ishraï, Alav HaShalom, nous dit, marque sur un petit bout de papier, Amalek et Aman, et tu sors en bas de chez toi, dans la maison, dehors, tu prends un peu de vin, ou du jus de raisin, tu verses sur le bout de papier, tu l'écrases. Pourquoi? Ça s'appelle un acte symbolique. Le Ben Ishraï nous donne l'acte symbolique. C'est-à-dire que tu prends conscience qu'en toi, tu as cette force qui t'étouffe, qui t'éteint, qui t'alourdit, et tu vas l'écrire, Amalek, Aman, et tu vas l'effacer, il y a un secret. Nous, Shechar le Oved, peu importe. Donner du vin pour détruire. Et donc, on va lui donner du vin, on va le détruire. Et en même temps que je détruis ce bout de papier, il faut que je prenne conscience que je suis en train de détruire tout le processus Amalek que j'ai en moi. Toute la lourdeur, tous les angoisses, toute cette force qui m'amène vers le bas, Chas v'Shalom, vers le sommeil, et vers l'angoisse. Vous savez que ceux qui sont angoissés veulent toujours dormir. Donc, réveille-toi. Et c'est un travail. C'est un travail difficile. C'est pour ça que pourri, c'est sérieux. C'est rigolo, mais c'est sérieux. Encore un paradoxe. Les gens pensent que être sérieux, c'est faire la tête. Non. Tu peux rigoler en étant sérieux. Tu peux faire ton travail d'Israël en étant heureux. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut le faire. Quand tu dis à quelqu'un « sois sérieux », ça veut dire « arrête de sourire ». Mais où tu as vu ça? D'ailleurs, on est tellement tordu que quand tu veux dire à quelqu'un que c'est sérieux, tu lui dis « c'est pas un jeu ». Un enfant, le pauvre, pour lui, le jeu, c'est essentiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus important que le jeu. Et quand il passe au devoir, au lieu de continuer à lui dire, tu sais, c'est un jeu, tu lui dis, c'est pas un jeu. Et tu dis, mais alors je préfère le jeu. Alors que si tu lui disais, c'est un jeu, il continuera à prendre comme un jeu, parce que pour lui, c'est la vie, le jeu. Et il a raison. Il est plus naturel que toi. Toi, tu as déjà perdu des plumes sur la route. Et chaque fois que tu arrives à une chose sérieuse, tu dois faire la tête. Tu as oublié que tu dois continuer cette simcha naturelle. C'est comme l'enfant, est-ce qu'il a des soucis? Comment il va manger à midi? Non, ça tombe. Il a une émouna pshuta. Mais quand il grandit, tu lui dis, qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu vas vivre? Où tu vas trouver du travail? Tu es un âne. Il dit, mais attends, papa, je comprends pas. Jusqu'à maintenant, j'ai vécu tranquillement. Tous les repas de midi, tous les repas du soir, ben, Baruch HaShem, ça tombe. Pourquoi tu me fais peur? Il dit, tu as raison, mon fils, moi aussi, je suis devenu fou. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on est devenu fou, on a peur de tout. Et pourquoi on a peur de tout? Contrôle. Il n'y a pas de lâcher prise. J'ai l'impression que c'est moi qui fais. Si ce n'est pas moi qui fais les choses, il n'y a rien qui se passe. Détrompe-toi. Le jour de Pourim, tu ne vas rien faire. On va te donner à boire. Tu vas tellement être en dehors du jeu que tu vas comprendre que le monde continue malgré toi. Parce que tu vas dévoiler l'essence. C'est le patron qui fait. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Comment est-ce qu'on arrive à la mémoire? Au souvenir. J'aime pas le mot mémoire, mémoire ça fait passif. Zachor c'est Zachar, c'est masculin. C'est-à-dire actif. C'est un souvenir actif. Pas de la nostalgie. Zachor, donc un souvenir actif, est Asher Asalecha Amalek. Alors je vous pose la question, comment on arrive à avoir de la mémoire active? Je vais vous poser la question différemment. Qu'est-ce qui nous fait perdre la mémoire? À cause de quoi nous n'avons pas une bonne mémoire? C'est pas rhétorique, hein, j'ai une réponse. Vous avez l'habitude que je parle, ça fait une demi-heure tout ça.
On est bombardé d'informations.
Il y a une seule chose.
On est trop dans le présent.
Une seule chose qui nous fait oublier, le temps. C'est-à-dire que si maintenant je vous donne une information, 10 minutes plus tard, je vais vous poser la question, vous allez déjà oublier. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 minutes, c'est tout. J'ai appris il y a 3 jours, mais j'ai oublié. Ça veut dire que le temps nous enlève la capacité à la mémoire. Donc je vais vous donner une solution. Si vous arrivez, par exemple, à dominer le temps, à sortir du temps, arriver à un moment qui domine tous les temps. Est-ce qu'il y a perte de mémoire? Non. Qui est dans un degré où le temps n'existe pas? Akadosh Baruch Hu. Il est dans l'unité parfaite. Donc chez lui, il n'y a pas de perte de mémoire. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi de la mémoire. C'est la mémoire. Je vous ai dit une fois que l'année commence par une journée de mémoire. Rosh Hashanah, comment ça s'appelle? Yom Hazikaron, la journée de la mémoire. C'est dommage qu'il ne s'est pas marqué comme ça d'ailleurs. Parce que c'est exactement ça, c'est la journée du souvenir. C'est ça qu'on doit travailler à Rosh Hashanah. Pourri, c'est la même chose. C'est une journée de souvenir de qui? De Amalek. C'est-à-dire, arrive à comprendre où se trouve à chaque instant dans ta vie le Amalek. Pour que tu puisses faire le travail convenablement. Pour ne pas qu'il te fasse encore une fois tomber de l'arbre de la vie, de la nature, de l'homme qui vit, à l'arbre de la connaissance. Hein? Au savoir. Aujourd'hui, si je vous pose la question, par exemple, où est inscrite la Torah? Qui veut me répondre? Où est-ce que la Torah est inscrite? Okay? Les gens nous disent dans les livres, dans le parchemin. Mais c'est faux, la Torah est inscrite en nous. Baruch Hashem. C'est exactement ça la réponse. La Torah, c'est nous. La Torah, c'est à l'intérieur de nous. Elle est inscrite chez nous. Elle n'est pas inscrite dans des livres. Des livres, comme dit mon maître, ce sont des ramasses poussières. Alors pourquoi on étudie dans des livres? Parce qu'on est incapable d'accéder à ce souvenir naturel que nous avons à l'intérieur de nous. Mais si on était capable de faire ça, on n'aurait pas besoin de livres. Vous croyez qu'Abraham Avinu se baladait avec des gmarotes? Et pourtant, il faisait Pessah le jour de Pessah, alors que Pessah n'était pas encore. Il n'y avait même pas de juifs qui sont sortis d'Égypte. Et ils mangeaient des matzot, alors qu'il n'y avait même pas de matzot encore. Et comment ils savaient? Il est au-dessus du temps. Donc ce qui va venir dans quelques centaines d'années ou milliers d'années, il le voit déjà maintenant. Moralité. Comment je peux accéder au souvenir actif? En accédant à mon monde intérieur, qu'on appelle le monde qui vient. Voilà ma bâle. Plus je suis en connexion avec mon intériorité, avec mon identité la plus vraie, plus je suis dans un degré de Olam Abba. Et dans le degré de Olam Abba, il y a une seule chose qui n'existe pas, le temps. C'est-à-dire que si je touche mon âme, d'ailleurs chacun de vous ici, quand on lui dit quel âge il a, il a l'impression que son âge ne bouge pas. Même si lui a vieilli, à l'intérieur il n'y a pas d'âge. L'âme n'a pas d'âge. Il y a le corps qui vieillit, mais chacun se sent jeune. C'est un secret, ça. Malheureusement, aujourd'hui, quelle est l'information? Regarde ton corps, ne regarde pas ton âme. Donc, on va vous fournir des camions de pommade pour soigner les corps. Encore et encore. Ça veut dire que l'essentiel, c'est l'extériorité. Et nous, âme Israël, on a quelque chose à émettre au monde. C'est qu'il y a une intériorité, c'est qu'il y a une âme, c'est que nous avons une force intérieure que nous devons donner, que nous devons sortir, mais à condition que nous-mêmes, nous accédions à ce degré-là, intérieur, qui s'appelle le Olam Haba, qui est à l'intérieur de nous, le monde qui vient, pas le monde futur, le monde qui vient, le monde qui est là, qui est dans un autre degré de conscience, qui est très profond à l'intérieur de nous. Lorsque j'arrive à ce degré-là, le temps n'existe plus. Donc plus je rentre profondément en moi, qu'est-ce que je gagne? Du souvenir. J'ai beaucoup plus de mémoire. Si vous voulez que votre mémoire revienne, accéder de plus en plus à votre monde intérieur. C'est là où se trouve la mémoire. Et pas à faire des exercices extérieurs qui sont complètement négatifs, qui ne servent à rien. Ce sont des exercices de style extérieur qui sont étrangers à votre identité. La seule mémoire, c'est l'accès à l'identité, c'est tout. Reviens à ton identité. Comment on le fait? En étudiant. Plus tu étudies, plus la mémoire augmente. Regardez un vieillard, sénile, et regardez un Talmid Chacham vieillard, c'est une lumière. Et ils ont la même, le même âge. Un n'a aucun souvenir, ça rend d'un côté, ça sort de l'autre, il ne reste rien. Et l'autre, tout ce qu'il prend, reste. Pourquoi? Il touche à chaque instant son monde intérieur. Donc il est dans le souvenir constant. Et c'est exactement le travail de Pourim. Zachor, c'est le premier mot. Zachor, souviens-toi. Si tu as le Zachor, si tu as le souvenir, si tu sais travailler sur ton souvenir actif, tout le reste, il n'y a plus de problème. Tout ça, ça s'élimine. Et c'est pour ça que la veille de Pourim, on va lire Parashat Zachor. Avant d'accéder à Pourim, avant de toucher la journée de Pourim, on est obligé de passer par le souvenir actif. Si on rentre à Pourim sans ce souvenir-là, on a perdu un petit peu de Pourim. Okay. Il y a plein de degrés, d'autres degrés. Par exemple, pour item auto, ou schartem. C'est-à-dire que nous avons des éléments, mais c'est toujours les mêmes éléments. On nous dit par exemple qu'en regardant les tzitziot, on a du souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en regardant ce que représente le tzitzit, c'est mon monde intérieur le tzitzit, c'est mon identité. Plus je regarde le tzitzit, plus j'ai de la mémoire active. Donc ce sont des secrets. Dans les schémas Israël, c'est la même chose. Si tu arrêtes de voir des choses extérieures, si tu arrêtes de te perdre, en fait, dans des bêtises, et tu te rives sur l'essentiel, encore une fois, tu gagnes cette mémoire, tout simplement. Et c'est ça le zikaron, c'est ça la mémoire. En fait, avec des mots simples, c'est d'être concentré à 100% dans ce que tu fais. C'est tout. C'est être entier à chaque instant lorsque tu fais quelque chose. Ok ? Que vous venez de dire, c'est exactement ce que les sages nous disent. Ils font une référence entre Zachor et Asher Asa Lecha Amalek et Zachor et Yom HaShabbat. Et les Chachamim nous disent Zachor élimine Zachor. C'est-à-dire, lorsque tu fais le Zachor du Shabbat, tu élimines le Amalek, qui lui aussi commence par un Zachor. Il y a un équilibre entre les deux. Donc l'observance du Shabbat, parce que Shabbat c'est un monde intérieur, c'est le Olam Haba. Automatiquement, le souvenir revient. Et exactement dans tous les thèmes de notre judaïsme, c'est d'accéder à notre monde le plus profond. C'est-à-dire l'essentiel de nous-mêmes. Comment est arrivé Amalek? On va bientôt terminer. Amalek est arrivé lorsque le peuple d'Israël a posé une question. Quelle est la question que Am Israël a posée? Hayesh Hashem Bekirbenu Im Ain. Traduction. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est vraiment avec nous? Ou peut-être pas. Soyez sincères. Est-ce que de temps en temps vous vous posez cette question?
Bien sûr.
Ceux qui tombent dans la déprime de temps en temps par des informations difficiles, qui disent mais. Okay. Moi j'ai un copain, à chaque fois il me dit ils ont gagné et Dieu est avec eux. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. Est-ce que Dieu est avec nous? Mais je vais aller un petit peu plus profondément. C'est beaucoup plus délicat que ça. C'est parce que Dieu est avec nous, il est contre nous. Hayesh Hashem bekirbenu. Tu veux me dire que dans ce processus de pourriture, Dieu se cache et qu'il continue à faire sa geoula avec tout ce qui se passe? Ça, c'est le secret. Oui. Bien sûr que oui. Si tu te poses la question, est-ce que Dieu existe même dans toute cette pourriture apparente? Là, tu as un problème. Là commence le problème. Si tu n'as pas conscience qu'Akadosh Baruch Hu utilise des moyens qui nous sont difficiles à comprendre aussi, pour préparer sa Géoula. Parce que toi, ça ne s'habille pas dans ton système de réflexion parce que tu ne sais pas faire un lâcher prise. Et donc tu dis à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, mais mon Rav, il m'a dit que c'était pas comme ça la Géoula. Tu peux faire exactement une Géoula comme j'ai appris? Parce que quand tu l'as fait comme toi, tu as envie de la faire, moi je la vois pas. Donc c'est pas une Géoula. Tu vas lui dire comment faire la Géoula. Akadosh Baruch Hu s'habille dans des événements qui nous dépassent. Et ces événements peuvent avoir des apparences horribles. Et à l'intérieur de ces apparences horribles, il fait avancer son processus. Megillat Esther. Si tu ne sais pas voir l'intérieur du processus, tu ne comprends rien. D'ailleurs, le mot Megillat Esther, c'est la capacité à dévoiler ce qui est caché. À décoder Dieu dans ce qui est caché, dans ce qui est difficile, dans un événement qui est comme Megillat Esther, comme je vous dis, jusqu'à la moitié de la Megillat au moins. Parce que c'est une catastrophe. Et à l'intérieur de tout ça, Dieu se circule. Quand il n'y a pas de Emouna, quand il n'y a pas de vécu, quand il n'y a pas... Quand je pose la question à des francophones, qu'est-ce que c'est Emouna, ils me disent la foi. Et à chaque fois que j'entends ce mot, j'ai une crise de foi. Ça ne veut rien dire, la foi. Une Emouna, en hébreu, c'est un vécu de la chose. Ani ma'amin, c'est ani me'amen. C'est pas croire. Ani me'amen, je vis la chose, comme un entraînement imoun. En hébreu, c'est beaucoup plus profond. Quand je veux un document et je veux savoir s'il est conforme à l'original, on dit Ne'eman Lamakor. Ça veut dire qu'il est certifié conforme à l'original. Ça veut dire que quand je suis Ma'amin, je certifie le divin qui est en moi. C'est ça le Ma'amin, c'est pas je crois. On ne croit pas dans une poupée qui se trouve dans le ciel et qui dirige les choses. Chas v'shalom. C'est une force de vie qui me traverse et moi je dois réaliser cette vie tout simplement. À tel point que le Kuzari est tellement terrible que quand je dis la chose, les gens rigolent, mais peut-être on pourrait pleurer. Le Kuzari, Ken Rabbi Yehuda Halevi, nous dit que ceux qui disent Anima Amin Be Munash Lema Be Biat HaMashiach, ceux qui disent je suis Ma'amin dans une foi profonde, dans la venue messianique, et il dit là-bas le Kuzari, et qui ne viennent pas en Eretz Israël, ressemble à la parole d'un perroquet et au sifflement d'un oiseau. Tiftsouf azarzir ve dibour atouki. Comme ça il dit là-bas. Terrible. Mais de quoi tu me parles? Tu es en train de dire que tu es en train de faire vivre la Géoula et tu ne fais pas les gestes qui correspondent à ce que tu es en train de raconter. Ça veut dire que lorsque je ne réalise pas, lorsque je ne sors pas au réel ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que j'ai reçu comme identité, lorsque je ne certifie pas la vie, je suis dans un degré qui est petit en Emouna. C'est-à-dire, j'ai un petit entraînement. Je ne suis pas bien entraîné. La clipa de Amalek, donc, va essayer d'étouffer. Et nous allons tout faire pour sortir, pour avoir justement cette Emouna. Je suis à la feuille 3. Et j'ai 7 feuilles, mais je ne vais pas finir le cours comme d'habitude. Je suis trop gourmand. Je veux tout le temps en mettre un petit peu plus. Parce qu'il y a tellement de choses dans cette fête de Pourim. D'ailleurs, si je vous donne un conseil. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, achetez une Megillat Esther. C'est le seul investissement qui vaille la peine. C'est une Megillat qui va rester jusqu'à la fin des temps. Tout le temps. Même après la venue du Mashiach, on va continuer la Megillat Esther. Donc c'est un investissement qui vaut le coup. Achetez une Megillat Esther. N'achetez surtout pas une Megillat Echa. Okay? On n'investit pas dans les choses de la tristesse, parce que ça va bientôt se terminer tout ça. Donc il faut investir dans le corps de la construction. Bien entendu, okay, c'est tellement grand, tellement vaste jour de Pourim. Ça me rappelle une histoire qui correspond à Tu Bishvat. Okay? Un jour il y avait des grands tzadikim, des grands chassidim en Pologne qui étaient assis autour d'une table le soir de Tu Bishvat. Et les élèves commencent à manger quelques fruits qu'ils ont là sur la table. Et le grand rabbi leur dit de dire des livrets Torah. Et chacun dit des livrets Torah. Et à la fin arrive le grand élève. Et le rabbi dit, allez, donne-toi un dvar Torah. Et l'élève commence à donner des paroles extraordinaires. Seulement, il est dans une petite yeshiva en Pologne, là-bas. Et le rav est en train de pleurer. Pleurer. Et l'élève lui dit, Kvodarav, est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bon? Il dit, pas du tout, mon fils. Tes paroles sont des merveilles. C'est pour ça que je pleure. Parce que toi, tu ne fais que parler. Si on était maintenant sur la terre d'Israël en train de manger les fruits de la terre, on n'aurait même pas besoin de parler. Le vécu vaut beaucoup plus que toutes ces paroles. Et c'est ça exactement ce qu'on doit vivre. On ne doit pas comprendre la fête ou l'événement comme une étude cérébrale. On doit le vivre. C'est-à-dire que le jour où on doit prendre conscience que nous sommes un peuple, c'est le jour où nous allons faire toutes les actions possibles pour réintégrer cette notion de peuple. Alors qu'est-ce qu'on fait le jour de Pourim? Depuis le matin, on s'active. Qu'est-ce qu'on fait? Mishloach Manot. On va commencer à tisser une toile entre nous. On va comprendre que nous sommes liés tous. Comme si on avait oublié. Tiens, il faut lui envoyer à celui-là. Celui-là, je l'ai oublié. Il faut lui donner. Et mon voisin, j'ai un petit problème avec lui. Il faut que je donne. Et cela. Et tout le monde, et tu reçois. Et tu ne sais même plus. À la fin, tu fais les paquets avec ce que tu as reçu. Et tu ne sais plus. Que... Et on fait tous pareil. Hein. Tu ne sais plus quoi faire. Tiens, j'ai une bouteille ici, je remets ici. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend conscience tout simplement de notre identité. C'est tout. C'est tout que nous sommes un. Et peu importe ce qui est à moi, d'ailleurs, le type, il reçoit sa propre bouteille à la fin. Je dis, tiens, j'ai oublié, mais marque mon nom dessus. Okay? Et ça, c'est le degré de Pourim. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à Pourim? Qu'est-ce qu'on fait d'autre à Pourim? C'est d'accord. C'est-à-dire, on va penser à celui qui n'a pas. Encore une fois, je tisse mon peuple. Je prends conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas à côté de moi. Il faut que je leur donne. D'ailleurs, ceux qui veulent nous aider, nous avons une amouta. Il s'appelle Betsarasso en passant, j'avais même pas prévu de parler de ça. Mais d'avoir l'Echem Abracha, c'est très important, surtout avant Pourim. Malheureusement, nous avons des familles. Tout ce qui est ici, tous les livres, toutes les cassettes, tous les disques, ça ne va pas dans notre poche, il n'y a rien. Tout va directement à des familles. Ça, c'est très important de prendre conscience de ça. Quelle est la troisième mitzvah de Pourim? Le Mishté. Qu'est-ce qu'on fait dans le Mishté? La Simcha. La simcha, ça veut dire la base du judaïsme. Si tu n'as pas de simcha, tu as tout raté. Demandez à un enfant quelle fête il aime le plus. Il comprend naturellement que c'est Pourim. Il n'y a même pas besoin de lui poser la question. Pourquoi? Parce que c'est là où il vibre le plus. Pas parce qu'on se déguise. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui se passe. Dès que tu lui dis que c'est Hadar, Michel, on dirait que tu lui as redonné la vie. Parce qu'il est naturel, il est encore proche de sa nature. Qu'est-ce qu'on fait encore à Pourim? Mikra Megillah. Megillah, c'est quoi? C'est dévoiler les secrets de notre peuple, les secrets de notre Torah. Nous avons une Torah tellement riche et nous sommes toujours au Radé Pakret dans l'étude, Chas V'Shalom. Plus maintenant. De plus en plus, Baruch HaShem, surtout en Eretz Israël, on a une Torah de plus en plus profonde, de plus en plus authentique, de plus en plus intérieure, qu'on appelle la Torah d'Israël, Torah Ta'aretz. C'est une Torah extraordinaire, une Torah profonde. Qui va décoder, qui va sortir les fruits de la terre. Donc les fruits de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a encore à Pourim? La Seouda, on l'a dit. Donc il y a toutes les mitzvot, en réalité, font le même travail. On va toujours dans la même direction. Et tout ça pour découvrir, et je termine avec ça, on m'a dit de terminer à 10h. Le Aleph, l'identité d'Israël, le Aleph. Akadosh Baruch Hu s'appelle Aloufo Shel Olam, le champion du monde. Et quand ce Alev vient habiter chez nous, il a trouvé une maison. On dit en hébreu, une maison, un appartement d'Ira. Donc le Alev vient habiter ici, ça fait Adar. Le Alev vient habiter parmi nous. Lorsque le Alev du divin descend dans ce monde et que j'arrive à le voir, donc dès Mishenichnas Adar, dès que je vois que le Alev vient habiter avec moi, c'est-à-dire qu'en réalité il est tout le temps là, mais je prends conscience un petit peu plus, Marbin Besimcha, la joie augmente automatiquement. Alors celui qui ne sort pas joyeux, il a un problème. Soyez joyeux. Toda Rabba.
J'ai une petite question. Okay.